on a encore le soleil. On l'aime. Mais on est obligé de se mettre un petit peu dans le coin. Qu'est-ce qui caractérise une compréhension de la personne à un niveau psychologique? En quoi elle se distingue d'un regard métaphysique sur la personne humaine? Comment cela se manifeste-t-il dans les comportements? Bon, c'est un problème très vaste. J'ai touché la dernière fois très rapidement. C'est sûr que pour saint Thomas, à la suite d'Aristote, Aristote ne parle pas de la personne. Il parle de la subsistance. Il ne parle pas de la subsistance au point de vue métaphysique. Il ne parle pas de la personne. Le mot personne, c'est un petit peu comme pour les Grecs, prosopone, qui était le basque. Et c'est né dans un problème artistique, la personne. C'est-à-dire, au fond, le personnage. Vous jouez un certain personnage. Nous jouons le personnage religieux. Vous êtes, avec votre costume, personnage religieux. Vous avez un masque. Qu'est-ce que vous pensez? Et quand on pique un religieux, on a des réactions très différentes. Celle des Saint-Jean, celle de... On pourrait prendre tous les mouvements charismatiques. On a des mouvements très très différents. Oui, alors, il faut voir que la personne a pris sa grande importance avec la révélation du mystère du Christ. On avait une personne divine et une nature humaine. Et au point de vue de la foi, on dit Jésus est Dieu. Il y a une personne divine et une nature humaine. Alors comment voulez-vous que le point de vue psychologique puisse parler de la personne divine ? Et c'est ça qui était le gros problème, et qui reste, hein, parce que quand vous faites de la théologie au niveau psychologique, c'est lamentable. Oui, la théologie est prise entre deux défauts aujourd'hui. La logique qui est souveraine, la psychologie qui est souveraine, et la pauvre théologie entre deux est écrasée. La métapsychologie, qu'est-ce que c'est? C'est constamment le point de vue de la psychanalyse ou, au contraire, le point de vue hegelien, la conscience. Quand on part de la conscience avec Descartes, de Descartes à Hegel, et c'est une super psychologie. Parce que vous n'atteignez pas l'être, vous atteignez la conscience qu'on a. C'est tout le problème de la conscience. Et la conscience, elle est humaine. Et l'humain n'est pas directement métaphysique. Vous ne pouvez pas faire une théologie à un niveau psychologique. Une trinité, le traité de la très sainte trinité. Vous voyez, pour tout le traité de la très sainte trinité, l'analogie classique d'Aristote ne suffit pas. Il faut une métaphysique par le point de vue de la similitude. Et on voit très bien que saint Thomas change de vitesse. Et beaucoup, aujourd'hui, continuent de faire, sous l'influence psychologique, continuent de faire une théologie avec l'analogie métaphysique. Oubliant que, en théologie, pour le traité de la très sainte Trinité, je suis devant une analogie par similitude. Et c'est tout à fait différent. Et on est, il faut bien reconnaître, que constamment, les personnes ne savent plus très bien qu'est-ce que c'est que la psychologie, qu'est-ce que c'est que la métaphysique, qu'est-ce que c'est que le point de vue métaphysique de la nature, philosophique de la nature, pas métaphysique, puisque métaphysique est au-delà de la nature. Alors, nous sommes, nous, devant ces tendances multiples et diverses. Nous sommes, nous, en face d'une scolastique qui est née de la théologie. À partir de la théologie de saint Thomas, on a fait naître la scolastique. Et on l'a fait naître pendant un certain nombre d'années. Et toujours, la théologie était derrière. Devant le problème actuel de la personne, il faut avoir une notion métaphysique de la personne pour qu'on puisse faire la théologie de la personne divine. Et c'est ce que saint Thomas a fait. Saint Thomas n'a pas fait son traité de théologie de la très sainte Trinité avec un point de vue psychologique. Il l'a faite en se servant de la définition de Boès. Or, Boès était au niveau logique, les catégories. Il est revenu à Aristote, mais Aristote ne parle pas de la personne. Et alors, c'est ça qui fait que, avec saint Thomas, si j'avais le temps, j'étais un des rêves, j'aurais aimé te montrer combien saint Thomas est le théologien de la personne, et que c'est ça son originalité. C'est ça qui l'a fait à un niveau nouveau. Il a dépassé le point de vue psychologique, le point de vue de la vie, et la vie de la personne au niveau de l'être. Mais au niveau de l'être, la personne n'est pas une recherche d'un principe. La personne n'est pas un principe. Puisque ma personne, elle se fait. Quand vous voyez un petit gosse, vous ne dites pas « Oh, quelle belle personne !» Et si vous dites ça, les parents rigoleront. Quelle beau personne. Vous-même, votre personne actuelle, vous en avez une de personne actuelle. Qu'est-ce qu'elle est? Votre personne, elle a changé depuis que vous êtes religieux. Il y a eu un gros tournant. Même si avant, vous n'aviez pas Vous aviez une vie humaine régulière. La vie religieuse change complètement. Votre personnalité et votre personne. Votre personne se développe. La personne au niveau philosophique, c'est le pos. C'est le comment. Je mène ma vie autrement qu'un animal. Je mène ma vie en homme et en chrétien. Et le résultat de mener ma vie en homme et en chrétien augmente ma personne, ma personnalité et ma personne. Ma personne est enracinée dans ce que je suis. Ce n'est pas directement l'être, c'est ma manière d'être. J'ai une manière d'être spéciale qui est humaine. J'ai une manière d'être spéciale qui n'est pas celle du lion, qui n'est pas celle du loup. Ma manière d'être humaine. Donc, je suis au niveau de l'être, mais pas la recherche d'un principe, puisque la personne, ce n'est pas un principe. La personne, c'est une manière propre de développer mon capital d'être. Je développe mon capital d'être de telle manière. Ah, ça, c'est la personne. Celui qui n'a pas beaucoup de personnes, il la développe selon les mouvements du flux et du reflux, selon les modes. Et selon les modes, sa personne vieillit. Et ça, c'est pas normal. Une personne devrait être indifférente, comprenez bien, indifférente au-delà des modes, s'en servir. Une mode, ça dure 10 ans. Actuellement, ça va beaucoup plus vite. Ça dure 5 ans. Alors, ma personne, elle va varier tout le temps. Non. Je prends dans ce qu'il y a d'actuel, de bon, et qui permettra à ma personne de se développer. Ma personne se développe autrement aujourd'hui qu'il y a 50 ans, qu'il y a 30 ans. Hein? Expliquez ça. C'est ça qu'il faut expliquer. Et vous voyez, alors, vous allez avoir, je crois, une conscience suffisamment nette de comprendre que la métaphysique a été en retard. Parce qu'au fond, la métaphysique s'est enfermée dans la scolastique. On n'a pas eu le courage de revenir à Aristote. Ce que saint Thomas a fait... Quand saint Thomas était en face de l'enseignement qu'on lui a donné, il a eu le courage de revenir à Aristote. Ah, il n'a pas fait de philosophie, il a fait une théologie, parce que Dieu lui demandait ça. Mais la philosophie, il l'a faite en commentant Aristote. Il a quand même commenté la métaphysique, la physique, l'éthique. Et pour connaître saint Thomas, il faut lire ses commentateurs, le commentaire d'Aristote qu'il a fait. C'est là où vous découvrez Thomas d'Aquin comme philosophe. Ce n'est pas dans la Somme. Dans la Somme, vous ne découvrez pas saint Thomas comme philosophe. Vous découvrez la scolastique. Alors, voyez, je vous donne un petit signe à tout ça. Le père Gardeil Minor, que j'ai bien connu, a voulu donner un petit traité de métaphysique thomiste. Je crois qu'il est à la bibliothèque. Au fond, ce petit traité de métaphysique thomiste, c'est ce que la scolastique considère comme la métaphysique. C'est très intéressant comme témoignage. Mais ce n'est pas de la métaphysique. La métaphysique, elle doit se prendre de l'expérience. Et elle ne se prend pas à partir de la théologie. Prendre ma métaphysique à partir de la théologie, c'est la scolastique. Alors, elle se prend donc à partir de la théologie, elle se sépare de tous les philosophes qui ne sont pas théologiens. Et c'est ce qui est arrivé. C'est que la scolastique thomiste s'est développée chez des religieux. Et elle n'a pas pénétré à Sorbonne. Parce qu'il y avait la foi. C'était les théologiens. Et la scolastique, c'était pour les théologiens. Or, nous sommes devant un monde où la scolastique ne pénètre plus dans la philosophie contemporaine. C'est bien évident, ça. Vous êtes traité en scolastique, donc aucun contact. Si vous revenez à Aristote, Hegel est revenu à Aristote. Alors, on dit, ah tiens, vous êtes philosophe. Oui, je suis aristotélicien. C'est Aristote, le philosophe que j'aime. Ah, moi je ne connais pas Aristote. Ce que me dit le bourgeois, me dit, je ne connais pas le grec. Donc, je ne peux pas prendre Aristote, mais ça m'intéresse beaucoup. Et c'est la communauté Saint-Jean qui devrait traduire Aristote pour que nous, Sorbonnards, nous puissions la lire. Parce que les traductions d'Aristote qui sont faites par un Sorbonnard, c'est encore la scolastique d'Aristote. C'est le Sorbonnard qui s'usue. Si au contraire vous saisissez Aristote pour lui-même, et vous traduisez Aristote pour lui-même, ah, on pourra étudier Aristote, parce que Hegel nous montre qu'il y a ce retour à Aristote, qu'en France, on ne fait pas beaucoup. En France, on retourne à Descartes et pas plus loin. Avec Descartes, c'est la création, commencement fut Descartes. Tandis qu'en Allemagne, on retourne beaucoup plus à Aristote. Tandis qu'en Angleterre, on retourne beaucoup plus à Aristote. Et c'est l'Europe quand même ça. Donc on est en face d'une philosophie européenne qui ne rejette pas son origine grecque, mais qui ne la connaît plus, parce qu'on ne connaît plus le grec. Le bourgeois m'a dit ouvertement l'œuvre de Saint-Jean devrait donner une traduction littérale, mais lisible. Parce que si c'est littéral et que c'est illisible, on ne le lira pas. Une traduction authentique d'Aristote, des choses essentielles d'Aristote, pour que nous puissions retrouver Aristote, qui est une source. Ce qu'Aristote n'a pas développé, le livre, le De Cello, il est perdu. Mais on a la métaphysique d'Aristote. Et le retour à Aristote fait que on parle à des philosophes, on parle à des Hegeliens. Le retour à Aristote ouvre immédiatement immédiatement la possibilité de parler avec eux. Parce que la scolastique faisait un mur. C'est pour ça que le retour à la scolastique, c'est se cacher derrière un mur et se développer alors à côté. C'est pas d'avoir le courage qu'a fait saint Thomas. Et saint Thomas a fait ça en rupture avec la Sorbonne. C'est pour ça que la Sorbonne l'a condamné. Et comme la Sorbonne l'a condamné, c'est resté. Il faut bien voir ça. Nous allons, nous, quand nos spécialistes de saint Thomas, pour un Sorbonnat, on va à quelqu'un, théologien, pas philosophe. On est obligé, si on veut avoir cette ouverture vis-à-vis des universités modernes actuelles, donc si on veut parler aux philosophes d'aujourd'hui, il faut le retour à Aristote. Il faut connaître Aristote et pouvoir discuter avec eux sur Aristote. Ce qu'on ne faisait pas chez les Dominicains, il n'y avait pas de cours sur Aristote. On voyait Aristote, oui, rapidement avec les philosophes, mais on restait à la scolastique. Et la scolastique, c'est une philosophie qui prend naissance à partir de la théologie. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Et donc, cette philosophie, seuls les théologiens l'acceptent. Et l'encyclique du pape nous rappelle que la philosophie, elle est pour tout homme qui veut être intelligent. La philosophie, c'est développer notre intelligence dans un sens de recherche de la vérité. Parce qu'on est très facilement mené par l'imagination. Aujourd'hui, tout nous oriente vers le développement imaginaire. Alors, il faut avoir cette sécurité et cette hardiesse de se mettre à chercher une philosophie à partir de l'expérience. Alors, la philosophie au temps de saint Thomas, dire celle d'Aristote, n'a pas développé la personne. On peut dire, et c'est vrai, que la personne s'est développée surtout à partir de Descartes. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré que le premier moment de la philosophie, c'était le cogito, je pense. Reprenons l'ombre. Et si le cogito est une erreur, puisque le point de départ de la philosophie, ce n'est pas moi, c'est la réalité. Autrement, je considère tout ce qui est en dessous de l'homme, relativement à l'homme. Et donc, ce n'est plus un regard philosophique. Il faut bien reconnaître que si cette philosophie, en commençant par le cogito, c'est faux. Cependant, elle a développé quelque chose de très intéressant, le cogito humain, la pensée humaine, qu'on retrouve chez Kant, qu'on retrouve chez Hegel. Nous devons être attentifs à ça et voir ce que ce développement doit changer dans notre métaphysique. Autrement, nous ne sommes pas philosophes, nous ne voulons pas chercher la vérité. alors que tout homme porte en lui un souci de vérité. Je crois, sans le vouloir l'exprimer, il le porte en lui. Et quand on est en face de quelqu'un qui aime Hegel, comme quelqu'un comme Bourgeois, qui aime Hegel, ben, est impressionnant. Mais quand j'ai dit à M. Bourgeois ce que nous faisions, nous, et je lui ai demandé s'il était d'accord, il m'a dit simplement, Hegel, actuellement, est d'accord avec vous. Ça, une très bonne réponse. Mais la recherche de la vérité. À tout prix, hein, la recherche de la vérité. Si je la prends à droite, à gauche, peu importe. Je dois la prendre, je dois la chercher partout. Et il y a une recherche de vérité dans cette philosophie qui commence par le cogito. C'est sûr. Et je suis du 20e siècle, du 21. Je dois donc essayer de trouver où situer le développement de la personne au plan métaphysique. Et je dis bien au plan métaphysique. Ma métaphysique, elle doit servir à quoi ? La recherche de la vérité, découvrir Dieu, mais découvrir aussi l'homme. Plus ma métaphysique est pénétrante, plus je découvre l'homme. La psychologie, à quel moment est-elle née ? C'est pas Aristote, hein ? Pour Aristote, la psychologie, c'est beaucoup plus du côté artistique. C'est le théâtre qui doit montrer ça. Le théâtre a cet immense avantage qu'il peut montrer l'homme dans son hubris, dans sa colère, dans son orgueil, dans ses passions. Les passions, c'est l'art qui doit les décrire et qui doit les montrer. On les situe. La métaphysique, regardant l'être, regardant Dieu, découvrant Dieu, doit pouvoir découvrir ce qu'est la personne humaine, qui est l'être le plus parfait, dont j'ai l'expérience. Bon, une philosophie de l'expérience, comme celle d'Aristote, si elle néglige de considérer la personne qui est l'expérience humaine la plus parfaite, aucune réalité que je connais n'est plus parfaite que la personne humaine. Là, vous êtes cloué, vous êtes bien obligé de le dire. Et vous pouvez avoir l'expérience d'une personne. Donc, je n'ai pas l'expérience de la substance. Je n'ai pas l'expérience de l'acte. Je n'ai pas l'expérience directe. Je les découvre par l'induction, l'épagogé. Je les découpe par l'induction. Je n'ai pas l'expérience d'un principe. Quand vous prétendez avoir l'expérience d'un principe, c'est faux. Un principe est au-delà d'expérience. Je le découvre au-delà, par l'épagogé, l'induction. La personne n'est pas un principe. La personne est complexe. Elle inclut les principes. Si j'ai une personne qui montre l'être le plus parfait. Le plus parfait des existences est la personne. C'est pour ça que la féminologie traite de la personne. Parce qu'elle n'est pas bête. Hein. Les féminologues ne sont pas bêtes. Ils essaient de ratisser le plus possible tout ce qu'ils peuvent prendre. Et ils arrivent toujours à la personne. Et c'est le sujet radical. Parce que pratiquement, votre personne, elle est maintenant ce qui vous exploitez. Et votre personne, dans 10 ans, ne sera pas la même. Et pourtant, sera la même. Mon je suis actuel. C'est sûr, vous façonnez le petit moine qui est en vous, grandit. Et il fait partie de votre personne. Vous avez une personnalité différente que votre ami qui s'est marié. Et vous le retrouvez 10 ans après. Et vous voyez, le changement. C'était votre ami. Et vous pouvez constater la différence. Et pourtant, c'est le même, c'est votre ami. Et ce sera toujours votre ami. Et vous serez heureux de le retrouver. Et vous mettrez un certain temps avant de pouvoir lui parler en toute liberté. Vous voyez le problème, l'expérience que vous avez, vous expérimentez votre personne. C'est la première et la plus grande expérience que vous faites, d'expérimenter votre personne. Et pour mieux l'expérimenter, vous l'expérimentez avec votre ami. Parce que votre ami a sur vous un regard qui est plus objectif que vous et qui pourtant touche aussi ce qu'il y a de plus profond dans votre personne. L'examen de conscience peut avoir des degrés différents. Il y a un examen de conscience de savoir si j'ai tué personne. Vous savez, comme les gens se confessent. Quand on fait ses confessions, avant, maintenant ça ne se fait plus beaucoup, mais on faisait des confessions le jour de l'éveil de Pâques. On était en confessionnal 8h, 10h par jour. Et alors les gens arrivaient, mon père, je n'ai ni tué. Là, vous pouvez me donner l'absolution. Je n'ai pas tué. Mais il ne m'en donne pas l'absolution sur la négation. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez été charitable. Vous avez vu autour de vous les gens qui avaient de la peine à vivre, de la peine à se nourrir. Vous vous êtes occupé. Oh, ils sont trop nombreux. Excellente excuse. Ils sont trop nombreux. Mais vous pouvez en choisir un. Oh, c'est difficile. On ne les fréquente pas beaucoup. Alors, on arrivait comme ça à leur montrer qu'il n'y avait vraiment pas uniquement « je n'ai pas tué ». Il y a une conscience psychologique, il y a une conscience morale, il y a une conscience métaphysique. Alors, elle n'est pas conscience métaphysique, mais c'est l'expérience la plus profonde que vous avez. Quelle est l'expérience la plus profonde que vous avez ? C'est l'amitié. Parce que Dieu, vous n'avez pas l'expérience. C'est pour ça que ceux qui sont habitués à vivre uniquement au niveau de l'expérience phénoménologique, ont des moments terribles. Ils ont été habitués à un Dieu sensible, charismatique, qui se manifestait. Et puis, silence. Dieu n'est ni dans l'ouragan, Dieu n'est ni dans la tempête, Dieu n'est ni dans l'orage, Dieu n'est ni dans la guerre. Le silence. Dieu n'est pas expérimentable, mais il est une personne. Alors, j'ai au contraire, moi, par l'amitié, l'expérience de ce que je suis dans ce qu'il y a de plus parfait dans l'ordre expérimentable. Ce n'est pas ma personne. Ma personne, c'est plus riche que ça. Mais je dois essayer d'étudier alors qu'est-ce que c'est que ma personne ? C'est mon pos, le comment. Comment je vis, comment je suis, comment, au point de vue de l'être, je suis actuellement. Je suis non seulement un individu, mais une personne. Et ma personne saisit l'individu particulier que je suis. Donc vous voyez le problème nouveau qui se pose aux philosophes. Et parce que les philosophes étaient dans la scolastique. C'est vrai, on enseignait la scolastique. Ben, j'ai eu un enseignement scolastique. Et c'est à la suite de cet enseignement que je dis, on n'a pas le droit de rester là-dedans. Parce que la scolastique, c'est très bien pour tous les thomistes. Mais dès que vous n'êtes plus en face d'un thomiste, je sais pas. Et dans les thomistes, on avait des écoles différentes. On avait les franciscains. Alors on s'amusait à voir la différence entre les franciscains et les dominicains. Puis on a eu les pères jésuites. Alors, parce que les jésuites sont aussi thomistes, hein, saint Ignace recommande aux jésuites d'être thomistes. Alors ils sont thomistes jésuites, c'est-à-dire en s'adaptant, le thomisme du 21e siècle n'est pas le thomisme du 17e siècle. C'est très curieux et c'est très intéressant à voir ça. Parce que alors, le thomisme prenait la couleur différente des spiritualités différentes. Forcément, puisqu'il était né à partir de la théologie. Et la théologie, elle a variété différente. Alors, ce qu'il faut aussi bien comprendre, le problème qu'on pose, et je ne peux pas vous donner un livre, ça n'existe pas. Je suis bien obligé de le dire, ça n'existe pas. C'est votre aristotélisme auquel je fais appel. Vous avez fait de la philosophie, et une philosophie qui profondément se rattachait à Aristote. Vous avez tous fréquenté Aristote, au moins dans l'éthique. Vous avez fréquenté l'Aristote dans le point de vue de la nature. Et Aristote n'a pas développé la personne. C'est saint Thomas qui a développé la personne en théologien. Et développant la personne en théologien, il l'a développée au point de vue scolastique. Et on n'a pas développé la personne par rapport à la métaphysique, directement. Et c'est ça que je voudrais que nous fassions ensemble. Parce que la personne s'est développée en psychologie, elle s'est développée au point de vue féminologique. On la voit développée dans tous ses courants philosophiques. Tout le monde aujourd'hui, tout philosophe parle de la personne et ne parle pas nécessairement de la nature. Alors, nous restons philosophie de la nature et non pas philosophie de la personne. On ne peut pas dialoguer avec eux. Impossibilité. Si au contraire, on cherche ce que notre métaphysique nous aide à comprendre de la personne, on verra l'indifférence avec le point de vue psychologique, qui demeure toujours au niveau de la conscience. La psychologie demeure au niveau de la conscience et regarde les états différents de la conscience et les met en relation. Mais la psychologie n'atteint pas les principes métaphysiques. La substance est l'acte. Et alors, c'est ce qui arrive très souvent, c'est la féminologie qui les aide. Alors, on a la personne au niveau psychologique, au point de vue psychanalytique et au point de vue de cette philosophie de l'immanence. Alors, nous cherchons, nous, avec notre métaphysique, puisque vous avez tous fait un cours de métaphysique, vous voyez quand même un peu ce qu'est la métaphysique de l'être. Nous sommes, au point de vue existentiel, l'être le plus parfait qu'on expérimente. Le plus parfait qu'on expérimente. L'homme. C'est pour ça que l'amitié joue un tel rôle au point de vue philosophique. Vous vous demandez quels sont les éléments de la personne, le pos, le comment. La scolastique habituellement a cherché la propriété de l'être, mais ce n'est pas suffisant, parce que vous restez dans les transcendentaux, tandis que la personne n'est pas un transcendantal. Pourquoi elle n'est pas dans un... Parce que c'est un être existant. La personne existe, c'est pas un principe. La personne est complexe. Premier élément de la personne, au point de vue, premier élément, au point de vue métaphysique. Hein. La personne implique dans sa complexité la simplicité de la substance. Et je crois que ça, c'est très important de regarder que le premier élément de la personne, c'est la substance. C'est pour ça qu'il n'y a pas de personne chez l'animal. Ma personne, elle se fonde dans ma substance. Pour moi, c'est mon âme, ma substance. Deux choses différentes, si vous voulez. C'est mon âme vue du point de vue de l'être. J'ai un être suffisamment parfait pour qu'il subsiste par lui-même. L'homme a été aimé pour lui-même par Dieu à cause de sa substance, à cause de son âme. Il y a en moi quelque chose qui échappe à la relativité absolue. Tout change autour de moi, tout varie autour de moi, et il y a quelque chose qui demeure. Là, je rends raison, vous voyez, de ce que Descartes prenait ici. En effet, la première réalité que je saisis existante. Quand je saisis le principe, je ne saisis pas une réalité existante. Je saisis un principe. La première réalité existante que je saisis, c'est moi. Ma substance. Mon être profond. Qui me permet d'être quelqu'un distinct des autres. J'ai en moi quelque chose de radical qui est ma personne, qui se fond dans ma substance. C'est pour ça que la personne a une richesse, une autonomie qui est unique. C'est quelqu'un. Et on est déçu quand on s'aperçoit que chez beaucoup de personnes, on ne rencontre que l'individu. On rencontre quelqu'un qui n'a aucune personnalité. Il vit en fonction des autres. Et vivre en fonction des autres, c'est vivre dans cette relativité absolue. Ma personne, elle est premièrement quelque chose qui échappe à cette relativité absolue. Il y a en moi quelque chose qui ne peut pas se définir par les autres. Ma personne a son originalité propre, substantielle. C'est la première chose. Oui, je ne parle pas de nature, je parle de la substance.